Alors, nous avons beaucoup parlé la semaine passée dans Éphésiens 4 de l'Église, de son unité, de la construction que Dieu continue à construire, l'Église en tant que bâtiment que Dieu construit, que Dieu édifie. Et aujourd'hui, on va faire une petite interruption dans Éphésiens, mais on continue le même thème de l'Église, mais en ce jour d'Assemblée Générale. Nous allons lire plus spécifiquement un autre passage en 1 Corinthiens, chapitre 3. Et nous allons parler de fleurs. Alors, est-ce que Jean Vianney veut lire pour nous? Donc, 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 5 à 17.
Qui est donc Apollos et qui est Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. Car personne ne peut poser un fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. L'œuvre de chacun sera dévoilée le jour du jugement, le fera connaître, car elle se révélera dans le feu et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Ne savez-vous pas donc que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen.
Béni sois-tu pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. Alors on le sait, on se le rappelle peut-être, l'église de Corinthe était loin d'être une église parfaite. Mais alors, pas du tout. Mœurs douteuses, jeux de pouvoir, excès en tout genre, j'en passe, discours spirituels, mais hypocrites aussi. Donc, pas une église parfaite. Et nous avons dans ce texte une double image de l'église, celle d'un édifice que Dieu construit. Et ça rejoint un peu ce qu'on a dit en Éphésiens 2 la fois passée. Et celle aussi d'une plante en croissance. Et ça rejoint aussi Éphésiens, chapitre 4. Nous avions vu que les ministères avaient été donnés à l'Église pour son unité, pour sa croissance. Alors ce matin, j'aimerais parler de la croissance végétale de l'Église. La croissance végétale de l'Église. Alors, dans ce texte, le verset que je retiens surtout, c'est le verset 7. « Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître, qui fait grandir. » Planter, arroser, faire croître. Le plus important, c'est faire croître. Alors que c'est le rôle le moins évident, a priori. On voit bien qui plante. On voit bien, on arrive bien à réaliser qui arrose, mais qui fait croître? Personne en apparence. En apparence, la plante paraît pousser toute seule. C'est un processus naturel, dit-on. Et quand on plante une graine et qu'on arrose la terre, la plante va croître. Elle va grandir. Oui, oui, mais. Oui, mais qui a fixé ces lois? Qui les préserve, ces lois, sinon le Créateur, le Créateur de toutes choses et des lois aussi, de la création. Et puis, nous savons aussi, si on a un petit peu jardiné, nous savons qu'il y a des facteurs extérieurs qu'on ne contrôle pas. qu'on ne contrôle jamais. L'ensoleillement, hein, l'enneigement, on allait dire, l'ensoleillement, les insectes parasites, hein, la pollution, hein, et puis les catastrophes naturelles. Hein, et j'en passe aussi. Alors, dans la Bible, Dieu n'est pas seulement celui qui a créé le monde, hein, puis s'en serait retiré, hein, il est aussi celui qui continue à préserver le monde, à le porter. Hein. Et son travail est d'autant plus important depuis que le péché est entré dans le monde et a défiguré, hein, le monde de Dieu, l'a détérioré. Alors, planter, arroser ne suffit pas. Hein. Il faut Dieu qui fasse croître. Hein. Il faut Dieu qui fait croître. Alors, c'est pourquoi on peut comparer la croissance de l'Église à une croissance naturelle, œuvre de Dieu. Mais il faut bien quand même planter et arroser. Et cette image permet de maintenir une double vérité essentielle. Sans Dieu qui fait croître, tous les efforts sont vains. Mais Dieu ne fera pas croître sans notre part de travail. Et donc Dieu choisit de faire de nous des collaborateurs. Alors, pour expliquer la croissance d'une église, on va souvent voir les facteurs humains. On va voir l'importance des locaux. Voilà. On va voir l'importance de la musique, des groupes musicaux. On va voir l'importance du pasteur. On va voir l'importance de l'organisation, etc. Tout cela a de l'importance. Comment le nier ? Comme le fait, dans notre texte, de planter a de l'importance. Comme le fait d'arroser a de l'importance. On le sait bien. Mais le plus important, qu'il faut ne jamais oublier, le plus important est celui qu'on ne voit pas. Dieu qui fait croître. Dieu qui fait croître. Et le propos de Paul est tout à fait ça. Le propos de Paul est de relativiser l'importance des hommes. À Corinthe, il y avait toutes sortes de partis à l'intérieur de l'église de Corinthe. Certains se réclamaient de Paul, d'autres préféraient Apollos, d'autres encore se souvenait de Pierre, et le mettait au-dessus de tout. Et pour Paul, ben non, pour Paul, les hommes ont certes leur rôle à jouer, c'est vrai, planter, arroser, mais le seul qui compte vraiment, et c'est ça que Paul dit dans le texte, le seul qui compte vraiment, c'est Dieu qui fait croître l'Église, et l'Église, c'est l'œuvre de Dieu. Alors, ceci replacé dans son contexte, on pourrait donc comparer une église et l'église à n'importe quelle plante, un chêne, un roseau, un baobab, je ne sais pas. Mais je propose de la comparer à une fleur. Alors, voilà une fleur. Ô fleur, apparais-nous. Voilà. La fleur, on va garder la fleur parce qu'elle est là devant vous et elle est là. Et ça va illustrer toute la suite. Et donc, une fleur, ce qu'on attend d'une fleur, c'est qu'elle soit belle, d'accord, harmonieuse, et qu'elle ait de belles couleurs, si possible. Une odeur agréable, on dit que les fleurs n'ont plus d'odeur aujourd'hui, mais enfin, quand même, c'est ce qu'on attend d'une fleur. Et c'est comme ça, par sa beauté, ses belles couleurs, l'harmonie de ses couleurs, son odeur, c'est comme ça qu'elle glorifie Dieu, son créateur, qui l'a créé pour ça. Et la vocation première de l'Église, donc, c'est de glorifier Dieu, là aussi, par sa beauté, par l'harmonie de ses couleurs, de sa diversité, l'unité dans la diversité de son unité, voilà, l'unité et la diversité harmonieusement conjuguées, et puis l'odeur agréable. Et donc, tout ça doit glorifier Dieu. Et donc, on peut reprendre ça avec les pétales d'une fleur, et voir que elle le glorifie par l'adoration, l'évangélisation, la formation, le service et puis la convivialité. Alors, le premier pétale serait l'adoration. Nous sommes appelés à être des adorateurs du Dieu vivant. Si nous croyons que l'Église est une communauté d'adorateurs qui peuvent s'approcher de Dieu en toute confiance grâce à Jésus et qui peuvent lui apporter leur prière, leur adoration, eh bien, il nous faut faire aussi... il faut que l'adoration soit une de nos priorités, priorité de l'Église, de nos vies. C'est aussi simple et logique que ça. L'adoration est à la fois prière, on va dire, et louange à Dieu, dans un premier temps. C'est la prière, l'adoration, c'est la prière hein, par laquelle, dans laquelle nous disons, nous bénissons Dieu, donc nous disons du bien de Dieu. Hein, c'est ça, bénir Dieu. Et l'adoration, c'est aussi la reconnaissance hein, que nous exprimons à Dieu pour sa grandeur. Hein, souvent, on n'oublie pas, Dieu est grand. Hein, mais aussi pour sa bienveillance, hein, sa bonté, hein, sa grâce. Puis pour sa sainteté, hein, pour sa justice, pour sa patience, ça a été dit dans la première partie. Hein, et sa puissance, oui, son amour indéfectible, l'amour inlassable de notre Dieu. Tout ce que je viens d'évoquer est adoration du Dieu vivant, c'est là notre vocation. Mais ce n'est pas là toute l'adoration hein, que Dieu demande. Hein. Adorer, rendre hommage à Dieu, c'est aussi écouter hein, sa parole, s'instruire, hein, se mettre au pied du Seigneur pour écouter son enseignement. Hein. Et ça, c'est parfois moins éclatant. Hein. Ce n'est pas toujours très drôle, hein, comme des cantiques très enjoués. Non. Hein. Être enseigné par Dieu, nous savons que ce n'est pas toujours très drôle. Il y a des choses qu'on doit entendre, hein, qui sont de l'ordre, pas seulement de la consolation, hein, pas seulement de l'encouragement, mais aussi parfois hein, de l'avertissement. Hein. Et donc, écouter sa parole, s'instruire et mettre en pratique ce que nous avons reçu tous les jours de la semaine qui suit, voilà aussi hein, ce qu'est adorer Dieu, rendre un vrai hommage au Seigneur. Plus le culte est beau, plus il offre de satisfaction aux participants par la beauté, l'harmonie des chants, et plus il court le risque d'être une activité qui tourne sur elle-même, on va dire. On chante pour chanter. Et on croit qu'on a ainsi honoré Dieu parce qu'on s'est fait plaisir, hein, parce qu'on s'est éclaté quelque part. Hein, alors que Dieu nous attend le lundi matin au travail, il nous attend le dimanche soir avec notre famille, il attend pour voir si nous lui rendrons vraiment un culte hein, dans notre vie de tous les jours, le travail, la famille. Et donc à nous dans l'Église de donner sa pleine signification à l'adoration. L'adoration que le Père demande dans notre vie, dans notre Église. À nous d'adorer Dieu en esprit, en vérité, c'est un programme, pour, en n'oubliant pas que c'est un programme pour la totalité de notre être, pour l'être total de l'Église. Alors le deuxième pétale d'une fleur, belle, harmonieuse, qui sent bon, ça serait l'évangélisation. Dieu nous appelle à être des enfants nés de nouveau. Si nous voulons voir naître des enfants nés de nouveau dans notre Église, il nous faut impérativement annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. C'est toujours d'actualité. On n'a pas besoin, je crois, de nous en convaincre si nous sommes chrétiens évangéliques. Ça fait partie de notre ADN. Nous le savons. Et pourtant, la nécessité et parfois l'urgence de l'évangélisation nous échappe, nous échappe bien souvent, nous échappe de temps en temps au moins. Hein. La nécessité pourtant s'impose, comme elle s'imposait à l'apôtre Paul. Malheur à moi si je n'évangélise. Bien sûr, il dit ça en tant qu'apôtre. Mais c'est quelque chose, c'est un fardeau qui repose sur l'Église du Seigneur. Alors, ne pas faire entendre dans nos églises l'appel de Dieu à la repentance, à la foi, c'est amputer la révélation de Dieu en Jésus-Christ. C'est dénaturer le message du Christ. C'est le trahir, quelque part. Faire grandir l'Église en qualité spirituelle, en nombre, est un objectif qui doit être reconnu par tous les membres de la famille, de l'Église. L'évangélisation n'est pas une option, mais un impératif qui nous est imposé ensemble par le Seigneur lui-même. Alors, on peut toujours aller piocher des membres pour faire grandir l'Église. On peut toujours aller piocher des membres dans d'autres églises. Certains ne s'en privent pas, sous prétexte que nous avons mieux à proposer. Mais ce n'est pas ça l'évangélisation, d'après la Bible, d'après le Nouveau Testament. Et ça n'a jamais fait grandir l'Église de Jésus-Christ. C'est les vases communicants, ça. Là encore, comme pour l'adoration, se pose la question de savoir ce qu'est l'évangélisation. Alors, il y a des programmes d'évangélisation. Il en existe des quantités. Tous sont plus prometteurs les uns que les autres. C'est comme les promesses pour maigrir dans les publicités. Mais tout marche un peu, hein, tout marche un peu, c'est vrai. Hein. Mais ce qu'il faut retenir, je crois, c'est qu'il y a pire de toute façon. Hein. Il y a pire que d'utiliser un programme hein, ou un autre. Il y a pire, c'est de ne rien faire. Hein. Et à force de vouloir bien faire dans l'évangélisation, à force de chercher le programme qui va tout résoudre, on en reste trop souvent à l'évoquer, à en discuter, hein. Mais en réalité, à ne jamais se lancer dans quelque chose hein, et à ne jamais rien faire, hein, ni chez nous, ni en mission, ni au loin, hein, ni en mission au loin. Hein. Donc, lorsqu'il y a des visions sans aucune réalisation, le peuple s'engage vers une mort lente et certaine. Il faut toujours se rappeler ça. Hein. Et donc, c'est bien hein, de rappeler aussi que toute la vie ordinaire d'une église ordinaire est annonce de salut. Hein. Nous annonçons le salut. Et nous évangélisons par tous les aspects de notre vie. Nos réunions de biblique, nos réunions de prière, hein, nos cultes, toute notre vie. Hein. Mais cela n'épuise pas la vocation plus spécifique de faire retentir par la parole et par les actes l'appel à la repentance et à la foi. C'est bien là une des tâches, hein, une des pétales de la fleur de l'Église. Alors, le troisième pétale, ça serait la formation. Nous sommes appelés à être des disciples qui suivent le maître. Alors, après avoir choisi ceux qui étaient prêts à le suivre, Jésus hein, les a formés. Hein. Il en a fait des disciples. Hein. Avec l'adoration et l'évangélisation, la formation est une autre priorité dans l'Église. Or, il s'agit, hein, former, c'est quoi ? Ben, il s'agit d'apprendre aux nouveaux convertis à connaître et à suivre son sauveur et maître hein, dans la vie pratique, hein, à devenir un suivant, un disciple de Jésus. Hein. Et cet apprentissage se poursuivra hein, jusqu'à la fin de sa vie. Hein. Jusqu'à la fin de la vie, de notre vie, nous sommes des disciples, nous avons un grand A, hein, non pas dans notre voiture, mais nous avons un grand A quelque part sur nous. Hein. Alors, cette formation concerne donc tous les croyants, tous les membres de la vie de l'Église, hein, de l'Église. Pas seulement les plus mordus, pas seulement une élite accrochée, hein, tous. Hein, nous sommes appelés à nous former sans cesse hein, et à faire de la formation continue. Hein. Alors, c'est bon de voir qu'il ne suffit pas, par exemple, et nous le savons tous, je crois aussi, il ne suffit pas de savoir que Dieu pardonne, il faut lui demander pardon aussi. On est d'accord. En tant que chrétien, un jour, on s'est rendu compte qu'on savait que Dieu pardonnait. Mais on a su aussi, si on est devenu chrétien, qu'il fallait lui demander pardon personnellement hein, pour devenir chrétien. Et c'est ce qu'on a fait si on est devenu chrétien. Et donc, toute la vie chrétienne, ça va dans ce sens après. Il faut continuer dans cette lancée. Hein. Il ne suffit pas de savoir, il faut agir en conséquence du savoir. On pourrait dire que la connaissance de Dieu... Hein, si elle s'arrête à la connaissance, si elle n'est pas suivie de la pratique, ça produit des incroyants. Et on peut dire l'inverse, c'est pas bon non plus. La pratique de la foi, sans la connaissance de Dieu, produit des malcroyants. Et ça peut être très dangereux aussi. Donc, il faut les deux. Seule la connaissance de Dieu et la pratique de la foi font naître par la grâce de Dieu des disciples de Jésus-Christ qui grandissent à leur rythme, c'est vrai, mais qui grandissent. Et là, j'aimerais faire deux réflexions encore. J'ai lu quelque part que être chrétien, quelqu'un a dit, être chrétien, c'est mettre sa main sur sa bouche et se taire. Ah, quelqu'un a mis sa main sur sa bouche pour tousser, mais c'est pas ça. Être chrétien, c'est mettre sa main sur sa bouche et se taire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire bien sûr qu'en tant que chrétien, nous pouvons parler à Dieu, crier à Dieu, et les psaumes sont remplis d'appels. D'accord. Mais ça veut dire aussi que nous sommes appelés à écouter sa parole. Hein. Et quand nous abordons les Écritures, nous sommes appelés à le faire avec respect, hein, en écoutant ce qu'il veut nous dire, en nous taisant, hein, en faisant silence. Hein, nous sommes appelés à désirer entendre ce que Dieu a à nous dire. Nous sommes appelés à nous soumettre complètement à sa parole. Et c'est une attitude de vie, une attitude dans toute notre vie, se mettre à l'écoute de la Bible tout au long de notre vie, avec cette attitude de disciple, Il y a un dessin d'une icône, une icône orthodoxe, je crois, hein, où on voit un disciple qui a une énorme oreille. Non, c'est peut-être pas. Je vois qu'il c'est plus moderne. Une énorme oreille. Hein. Une petite bouche et une énorme oreille. Hein. C'est un peu ça, l'attitude du disciple. Hein. Alors, et une autre réflexion, c'est que Jésus n'a jamais dit « Si vous m'aimez, vous ressentirez un léger frisson dans votre cœur et parcourant tout votre être. » Non, il n'a pas dit ça. Il a dit par contre, hein, si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Et donc là, on est au cœur, hein, de ce projet de formation du Seigneur. Hein. Par amour, nous voulons nous former, suivre ses commandements. Le quatrième pétale, c'est le service. Le service. Nous sommes appelés à être des serviteurs à l'œuvre, dans l'œuvre du Seigneur. Hein. Alors, on a parlé des dons, des capacités, des dons de grâce, des charismes, des talents, des aptitudes innées, hein, acquises, dont le Seigneur nous a dotés. Hein. Mais tout ça doit être pour le service des autres, hein, et cette diversité dans l'unité, hein, du corps du Christ. On a vu ça la semaine passée. Mais comme le Seigneur lui-même nous a donné l'exemple, nous sommes appelés à le suivre en mettant le comble, hein, à notre amour, comme il a mis le comble à son amour, en lavant les pieds des disciples, hein, en nous servant les uns les autres. Hein. Et le Seigneur a ajouté que si nous savons ces choses, nous sommes heureux à condition de les pratiquer à nouveau. Hein. Alors nous affirmons dans l'Église que nous nous aimons les uns les autres. Ça, c'est le basique. Hein. C'est très bien. Hein. Mais la question n'est pas de savoir si nous le croyons. Nous le croyons. Hein. La question de savoir, c'est si mon frère et ma sœur, qui sont à côté de moi, eux s'en sont aperçus. Hein. Et puis, est-ce qu'ils en sont convaincus, hein. Est-ce que ce ne serait pas un service à leur rendre que ça s'aperçoive, ça se voit, hein. Alors, ça nous rappelle la même chose que pour la formation. De le dire est une chose, hein. D'en apporter le témoignage en est une autre. Hein. Et donc, le service est une priorité pour nous vis-à-vis de nos frères, comme vis-à-vis aussi, hein, de tous ceux que le Seigneur met sur notre chemin et dont nous devenons les proches, les prochains. Hein. Le service de l'Église doit se vivre dans l'Église, hein, et dans le monde païen et incrédule qui l'entoure, qui nous entoure. Et puis, le cinquième pétale, elle est pas mal non plus, hein, c'est la convivialité. Hein. Nous sommes appelés à être des membres d'une même famille. Hein. Alors, on a coutume de dire que la première prédication de l'Église, c'est celle qui est donnée à la porte d'entrée. Alors, vous avez tous reçu une prédication ce matin, déjà à la porte d'entrée. Alors, que la personne soit membre ou qu'elle ne soit pas, qu'elle soit convertie, comme on dit, ou pas, qu'elle soit habituée au lieu dans lequel elle entre, ou qu'elle se présente ici pour la première fois, cette personne doit être convaincue du sentiment qu'elle est bienvenue, qu'elle est bien la bienvenue. Le Seigneur est assurément heureux de la voir, hein, comme il est heureux de nous voir tous. Hein. Mais nous, est-ce que nous sommes heureux, hein, de voir cette personne? Alors, un mot gentil, une poignée de main, un sourire, voilà le premier serment, hein, qu'on peut faire entendre. Hein. Dans le cas contraire, aucune poignée de main, aucun sourire, eh bien, la personne entendra quelque chose. Elle entendra. Je vous laisse deviner ce qu'elle entendra, hein. C'est pas toujours intéressant, hein, l'absence cette absence-là. Alors, les sentiments de notre cœur, je crois que c'est important de le dire, parce qu'on est comme ça, hein. Les sentiments de notre cœur, même les plus beaux, même les plus profonds, restent inaccessibles et silencieux s'ils ne trouvent pas une expression par le geste et par la parole. Et ça, s'en rendre compte, ça nous aide, je crois. Ça nous aide dans notre vie d'église, dans notre vie de famille, dans notre vie de couple, hein, à aller plus loin. Hein. Je l'aime, hein, dira quelqu'un, hein, mais voilà, hein, il y a des gestes d'amour. Alors, ceci pour nous rappeler que l'église est un lieu d'accueil, d'affection, de paix. Et dans toutes les épîtres, ou presque, il est dit, hein, il y a ces « les uns les autres », »,« accueillez-vous, par exemple, les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis. » Et donc, c'est une priorité pour nous. Ce qui touche l'Église, ce qui touche dans l'Église, hein, ce ne sont peut-être pas tant les paroles, même les paroles les plus évangéliques possibles. Ce qui touche, hein, c'est l'ambiance chaleureuse, fraternelle qui règne. Le livre des Actes indique que l'Église persévérait. Ce n'est pas évident. Elle persévérait aussi dans la communion fraternelle. Il y a des obstacles à surmonter. Notre orgueil, notre égoïsme, toute notre dispersion, plein de choses. Il y a toujours une persévérance nécessaire. Je fais encore cette citation. Quelqu'un a dit « L'Église qui perd la qualité de ses relations fraternelles perd son identité d'Église de Jésus-Christ. » Alors, ne baissons pas la barre. Tout ça, ça nous est dit pour rappeler la barre. Rappeler qu'il y a un défi qui nous est lancé. Et il y a une barre à sauter. Ne baissons pas la barre sous prétexte que nous n'y arriverons pas. Et que nous n'y arrivons déjà pas, alors on n'y arrivera pas non plus. Non, ne baissons pas la barre, mais reconnaissons plutôt nos limites et nos manquements afin, comme dit la Bible, de nous humilier. De nous humilier devant Dieu, mais aussi avec confiance, de persévérer ensuite. Dieu n'abandonne pas la partie. Et c'est ça qu'il faut entendre dans tout ce qu'on a dit ce matin. Dieu n'abandonne pas la partie qu'il a commencée lui-même. Et il continue de bâtir son Église, et comme on a employé ce langage, de la faire croître. Tout ce qui a été dit de l'Église pourrait s'appliquer maintenant à chacune de nos vies, bien sûr. On connaît tous, je connais des hommes et des femmes de foi qui sont habités par une paix, par une lumière qui irradie, qui est contagieuse. C'est de l'ordre, on ne trouve pas les mots, c'est de l'ordre de l'inexprimable. Mais on peut dire qu'ils portent en eux ce parfum de l'Évangile. Et ça fait envie, c'est contagieux quelque part. Alors notre vie n'est-elle pas appelée à être une belle fleur aussi? Notre vie personnelle, une belle fleur qui glorifie le Seigneur. Avons-nous, et on peut toujours se poser la question, avons-nous une vie harmonieuse, agréable à voir? Et quand on nous connaît un petit peu mieux, est-ce qu'on peut dire qu'on sent bon pour aller plus loin? Et savons-nous transmettre la vie en étant témoin en parole et en acte de l'Évangile de vie? Alors, Paul a dit, l'un plante, l'autre arrose. Mais le plus important, c'est Dieu qui fait croître. Alors, c'est vrai dans l'Église, c'est vrai dans nos vies. Et c'est pour ça que nos vies et nos églises peuvent glorifier Dieu, parce que c'est son œuvre, et il ne faut jamais l'oublier. C'est son œuvre. On peut se perdre dans plein de détails et dans beaucoup de choses, mais il ne faut jamais oublier que c'est son œuvre. Une œuvre qu'il n'accomplira cependant pas sans nous. Parce qu'il a choisi de faire de nous ses collaborateurs. Alors je termine par deux chants qu'on chantera. Je ne vais pas les chanter, mais simplement une citation de ces deux chants. Il y a deux chants dans nos recueils qui ont un rapport avec la fleur. Tout d'abord, « Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. » C'est une belle prière. Et puis, un autre, un peu plus ancien, « Mon Sauveur, je voudrais être une fleur dans tes parvis. » Et après, ça se poursuit, « Dans le silence répandre le parfum de ton amour. » Amen.